Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Bonjour. Nous sommes à Pont-de-Montvert. Nous sommes à la fête de l'abeille noire. Et nous sommes pas très loin du pays des châtaigniers cévenols, avec deux amoureux de la châtaigne, de la castagne. Nous sommes avec Lélia Benali et avec Éric Vézinet. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Lélia Benali, vous êtes productrice de châtaigne?
C'est ça, sur Vialaz, donc pas très très loin du pont de Montvert, à une vingtaine de kilomètres d'ici, donc sur la partie où on a encore des châtaigniers, puisque au pont de Montvert, l'altitude fait qu'il n'y a plus de châtaigniers. Voilà. Ces châtaignes, je les transforme en produits que certains connaissent, comme la crème de marron, évidemment, de la farine, des châtaignes naturelles, ça ce sont des produits dits classiques, et puis j'ai développé une gamme un petit peu moins classique, très sympa, voilà, qu'il faut déguster, qu'il faut découvrir.
Éric Vézinet, vous faites de la bière artisanale, de la bière de châtaigne?
Oui, bonjour, oui, je fais donc depuis 2009 à la maison, on brasse la Bogue, une bière donc exclusivement la Bogue, une bière à base donc de châtaigne marron de mon exploitation agricole.
Il y a une appellation particulière pour le châtaignier, l'agriculteur châtaignier.
Castagniculteur.
Castagniculteur.
Voilà, castagniculteuse.
Et castagniculteuse.
Voilà le féminin.
Terme exact de la culture de la châtaigne marron.
Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous nous expliquiez d'abord ce que c'est qu'une châtaigne et ce que c'est qu'un marron, en sachant que le fruit du marronnier ne se mange pas,
voilà.
Mais que le marron glacé, par exemple, c'est le fruit du châtaignier.
Voilà, c'est ça. Donc la châtaigne, c'est le terme générique pour nommer ce fruit. Donc l'arbre, c'est le châtaignier. Le marron, c'est plus un terme technique pour dénommer le fruit qui est très peu cloisonné, une fois qu'il est sorti de la bogue, qui pique.
La bogue, c'est l'enveloppe.
C'est l'écrin piquant voilà. Et doux aussi à l'intérieur, d'une bogue très doux. Et après, bien sûr, il y a le fruit dans la bogue. Voilà.
Et alors, l'un et l'autre, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes des néo-cévenols et vous êtes des néo-agriculteurs. L'un et l'autre, vous êtes tombés amoureux de la châtaigne et vous avez changé de vie. Lélia, vous étiez institutrice à Paris. Et Éric, vous étiez saisonnier sur les plages du Toral à Palavas?
Essentiellement à Palavas, oui. J'ai été donc saisonnier, j'ai fait cette activité plus de 20 ans. Mais quand même parallèlement, ce qui me permettait l'hiver de monter dans les Cévennes. Et donc, j'ai arrêté cette activité pour me consacrer complètement à ma passion, le châtaignier.
Voilà. La châtaigne, c'est un fruit... particulièrement cévenol, même s'il y en a bien sûr, il y a cette châtaigne ardéchoise, la châtaigne corse, mais la castagne. Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans ce fruit et d'où vient cette passion pour la châtaigne?
Pour moi, d'abord c'est un arbre que je trouve très beau. C'est un fruit, je trouve, complexe, avec une texture un petit peu particulière. Et moi, tout mon travail sur ce fruit a été de le dépoussiérer, de le moderniser.
Pour en faire de la farine.
Entre autres.
Entre autres. Voilà. Et Lélia, quand on arrive de Paris, qu'on était institutrice et qu'on décide de devenir agricultrice en Cévennes, comment ça se passe?
Le parcours n'est pas simple. Je ne suis pas issue de l'agriculture, moi. Je n'avais pas de propriété ici, donc j'ai d'abord fait une formation agricole, donc qui m'a donné un diplôme, et ensuite j'ai cherché des terres à exploiter, ce qui n'est pas évident ici, puisque ça fait partie des rares régions de France où il n'y a pas eu vraiment de remembrement. Donc du coup, il y a beaucoup de parcelles qui appartiennent parfois à des dizaines de propriétaires. On peut trouver une parcelle de 1000 mètres carrés qui appartient à 10, 12 propriétaires. C'est juste un exemple. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident.
Je te coupe parce que lorsque on on superpose le cadastre napoléonien avec celui d'aujourd'hui, il est quasiment le même. Les parcelles n'ont pas bougé.
Elles sont restées indivises.
Elles sont restées indivises.
Sur 10 générations.
Oui. Voilà. Rien n'a bougé sur ça, oui.
Et alors, comment devient-on exploitant d'une châtaigneraie?
Alors moi je suis fermière, donc c'est je loue les terres à un propriétaire et j'exploite les terres.
Et on peut vivre en étant fermier?
Je dirais qu'on est bien dans le pays Cévenol, il faut savoir faire de la résistance. Voilà, il faut être endurant, c'est un pays dur, effectivement il porte bien son nom, il est rude, dur, donc il faut savoir résister.
La châtaigne, c'est un fruit de survivance un peu ici. On est dans un pays très pauvre, hein, où la châtaigne se partageait entre les sangliers et les cévenols.
Bien sûr, la châtaigne, d'ailleurs, on appelait l'arbre à pain, le châtaignier. Alors, pour en revenir déjà, le châtaignier, on le retrouve partout en France, hein. Essentiellement, c'est vrai, dans nos Cévennes, bon, là, il y est à sa place, sédentarisé depuis des millénaires, etc. Donc, bon, voilà. Mais oui, la châtaigne était l'arbre à pain, nourrissait les cochons, nourrissait des fois aussi les gens, hein, par force.
Bien sûr.
Puisque, oui, les Cévennes sont pauvres, hein, ont toujours été pauvres, et essentiellement même de mon côté à Aujac, parce que nous n'avons pas eu beaucoup d'eau, contrairement à d'autres endroits où les ruisseaux coulent. Au Jacques, la 16, c'est le départ de la 16, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et oui, le châtaignier servait à faire des paniers, servait à faire manger les chèvres dans les rameaux au mois de juin, servait à faire manger les cochons tout l'hiver, faire ses banjanas, et puis aussi servait aussi de convivialité lors des veillées cévenoles que j'ai pu connaître avec certains anciens, où on faisait notre affachade avec un petit peu de rouge qui sont pas commercialisables.
Oui, des cépages prohibés, du clinton, de l'isabelle.
Voilà, ouais. Où on arrosait ses châtaignes le soir et on refaisait le monde. Voilà.
Alors, comment se passaient ces soirées, justement?
Ces soirées se passaient dans des endroits déjà très simples, où il n'y avait que la vérité. Enfin, on avait aucun masque avec ces gens. Vous savez, dans les campagnes, les gens peuvent paraître un peu rustres, mais je pense plutôt qu'ils ont honte aussi de la manière dont ils vivaient, ces cévenoles. Vous voyez, moi, je y vis depuis 30 ans, j'ai les sanitaires que depuis 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, vous êtes obligé d'aller, comme chante Francis Cabrel, dans la cabane. Voilà. Et donc, quand on voyait monter les citadins, quelque part, nos conditions de vie, on se chauffe au bois, on avait des maisons enfin, assez simples, et du mobilier simple, et ces anciens avaient honte de faire entrer aussi les gens chez eux par leurs conditions de vie. Et alors, ces soirées, c'était des soirées intimes avec des anciens, et voilà.
Qu'est-ce qu'on y dégustait en dehors de la châtaigne?
Lors de ces soirées?
Oui.
Oh, des fois, un coup de gnôle.
Un petit coup de rouge.
Alors tu m'achètes quelques marrons grillés.
Chaud sur les marrons chauds, j'aime les marrons chauds.
Achète-moi des marrons chauds, chauds les marrons chauds.
La 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 la.
Comment ça se passe, la récolte de la châtaigne?
Alors, il y a plusieurs façons. Moi, je récolte encore à la main, puisque je suis seule sur mon exploitation. Donc, j'attends les premières châtaignes, en tout cas sur certaines variétés, telles les figarettes que moi j'ai sur mon exploitation, tombent à partir du 20 septembre. Donc, moi, je ramasse à la main, je mets dans des filets, et puis j'essaie de stocker dans un endroit frais et sec. Après, il y a évidemment des exploitations plus grosses, qui ramasse avec des filets, donc on pose des filets quand c'est bien nettoyé, hein, parce que moi, pareil, si on veut être un peu plus technique, moi j'ai une exploitation qui est ce qu'on appelle semi-dégradée, C'est-à-dire que sous mes châtaigniers, j'ai encore beaucoup de genêts, encore beaucoup de bruyères. C'est un terrain très pauvre. Hein. Donc du coup, je suis obligée d'un petit peu débroussailler et pentu, voilà, ouais. Extrêmement pentu. Je débroussaille en septembre les genêts, les ronces et les bruyères qui me gênent. Et puis à ce moment-là, après, je peux ramasser les châtaignes de façon un petit peu plus pratique.
Éric, vous faites de la bière de châtaigne. Comment on fabrique de la bière de châtaigne?
Eh bien, déjà avec, je fabrique donc de la bière. Bon, c'est donc avant tout de ramasser ce fruit, hein, la châtaigne, de le sécher, de le concasser.
Avant de sécher, vous l'avez baigné?
Alors. Oui, il y en a qui les baignent quelques jours pour séparer les véreuses et les non-véreuses. Oui.
Lélia, vous les baignez, vous les...
Non, moi je fais un tri. Au niveau de temps, je suis un petit peu limitée moi, au niveau de temps. Donc sur mon ramassage, je fais déjà un tri. C'est-à-dire que si je vois des véreuses ou des pourries, déjà je ne
les
ramasse
pas.
Mais je ne fais pas de bain. Après, il y a deux techniques. Après, toi tu parleras plus de la bière. Mais moi sur mon travail, on peut ou sécher les châtaignes, pour en faire de la farine ou des châtaignes sèches.
Ça, c'est sur des clés dans...
Voilà. Moi, je vais dans un lieu qui s'appelle Fariborne, enfin, à pied de Borne, c'est à une trentaine de kilomètres d'ici. Les châtaignes sont séchées, elles sont dépiquées, c'est-à-dire qu'on leur enlève leur peau, et là, on fait un tri. Donc là, s'il y a des véreuses et des pourries, c'est à ce moment-là que je fais le tri. Du coup, ça m'évite de faire ce temps de bain. De même pour les châtaignes fraîches que je vais faire éplucher. Alors, on a une usine sur Génolac, donc qui est pas très
Génolac,
voilà, ouais. Qui s'appelle Verfeuille, qui a une grosse machine qui épluche les châtaignes. Et là encore, elles passent dans une trieuse à la fin, où ce sont souvent des femmes hein, d'ailleurs qui font ce tri. Les plus jolis marrons, les mieux épluchés vont pour les marrons naturels.
Ce qu'on appelle marron, hein, voilà. c'est un fruit d'un seul fruit quasiment.
Oui, d'un seul fruit,
voilà.
Un
très très
voilà, sans empoisonnement. Évidemment, on enlève les pourries, les véreuses, et le reste en général part à la confiture. Le produit phare avec la farine de la châtaigne actuellement.
Oui, c'est très délicieux d'ailleurs.
Ouais.
Et pour la bière?
Pour la bière et pour la Castagnus Evenol, bon, puisque je vends quand même du fruit aussi frais sur le marché Gare à Montpellier ou à la cave des Vences, donc je plonge les fruits pendant 9 jours pour garder les non-véreux. Et pour la bière, alors bon, on sèche la châtaigne, non, on la sèche plus à la clède. On la sèche électriquement, voilà. On la concasse et on la mélange au malt pour donc après faire fermenter et après arriver à ce breuvage qui s'appelle la bogue.
Et comment vous la fabriquez? Vous avez
Il y a bien sûr des petites
petits secrets.
Des petits secrets de druide.
Oui, mais bien sûr.
Non, Obélix, non. Les effets de la potion sont permanents chez toi. Tu sais que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit.
Et tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit.
Il y a aussi une chose qu'il faut parler du châtaignier, c'est sa fleur. Sa fleur est très aromatique. Et lorsqu'on est au mois de juin sous un châtaignier, d'ailleurs, bon, le miel est vraiment typique, le miel de châtaignier. Et lorsqu'on est sous un châtaignier au mois de juin, là, on sent vraiment l'odeur. Voilà. Donc je me sers aussi de cette fleur pour fabriquer la bogue. Voilà. Et bon, je mélange donc mes châtaignes à 4 sortes de malt. Et puis il y a aussi un ingrédient majeur dans la bière, c'est l'eau. Hein? Dans les Cévennes, nous avons donc de la chance encore, tant que Veolia ne nous la volera pas, une eau neutre, un pH qui est quasiment à 7. Et bon, vous voyez, j'ai encore des écrevisses à 100 mètres de chez moi.
Des écrevisses grises?
Oui, à 100 mètres de chez moi, voilà. Donc, on a une eau sans pesticides, hein, voilà, Et cette qualité d'eau peut-être, même certainement, contribue au fait de la qualité de ma bière.
J'aimerais qu'on fasse un petit voyage en odorama, parce que c'est très radiophonique l'odorama. J'aimerais que pour les auditeurs de France Culture, que vous nous fassiez sentir la châtaigne et les châtaigniers. Et les châtaigniers en fleurs.
Mais lorsqu'on est sur les terres, à chaque jour est différent. Déjà, il y a l'espace. Il y a ce qu'on peut voir, les animaux, parce que les Cévennes, et, voilà, il y a beaucoup d'animaux sauvages. Donc aussi, il y a l'odeur du feu. En novembre, décembre, quand on est sur les terres, on fait brûler. Je vous ai parlé des cobuages. Il y a aussi ces rameaux début juin, quand on enlève ces rejetons des arbres début juin, là où les chèvres sont très friands, ça dégage aussi ces odeurs. Les genêts en fleurs.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'automne, quand les feuilles tombent. C'est difficile d'expliquer les odeurs d'automne, mais moi, j'ai vécu à Paris, par exemple, j'adorais les odeurs du platane quand l'automne arrive et qu'il tombe. Et maintenant, c'est la même chose avec le châtaignier. Et moi, c'est le bruissement des feuilles dans mes pieds. Quand j'étais petite fille, je m'étais fait aussi des bains de feuilles de peuplier. Ce bruissement, ce crissement qu'elles ont quand elles sont sèches à terre. Alors moi, je fais très peu d'éco-buage. J'en ai fait l'année dernière. Je n'aime pas le feu. Enfin, dans la mesure du possible, j'essaie de composter.
Très peu de gens maintenant se servent plus de l'éco-buage et c'est dommage. Parce que quelques mois après, l'herbe verte revient, ce qui fait manger des cervidés ou d'autres animaux. Et c'est très bien, ça asepsie le terrain. Et l'éco-buage est une très bonne formule et est une formule fainéante. Sur France Culture,
on ne parle pas la bouche pleine,
avec Alain Kruger.
Alors vous avez quel type de variété ici?
On a de la figarette, de la pellegrine et de la combale. Et il y a aussi de la barbue, que peu connaissent.
Alors qu'est-ce qui les différencie les unes des autres? À quoi elles ressemblent?
Alors leur couleur, par exemple la pellegrine, elle est un petit peu poilue. La figarette, c'est une petite variété de marron, toute petite, mais très sucrée, très très bonne. La combale, elle est striée.
La bouche rouge aussi, par rapport au nombre du fruit qu'il peut avoir dans la bogue. La bouche rouge, il y en a 4, mettons. Bon, souvent, il y en a 3. Hein. Mais il y a des variétés où il y en a 4.
Et pourquoi elle s'appelle la bouche rouge?
Parce que ce fruit est essentiellement rouge.
Alors, figarette et pellegrine, ça vient de certains lieux dits. Au niveau historique, ça vient de... Il y a des lieux qui s'appellent...
En fait, il faut savoir que toutes ces variétés, c'est les moines qui les ont plantées.
Oui.
Et donc, ils plantaient des vallées de telles...
Mais qui les ont plantées très tôt, au 8e siècle.
Oui, voilà. Oui. Ils ont planté très tôt. Voilà.
Voilà.
Il y a de toute façon plus de 100 variétés. Oui. Donc, personne ne peut prétendre à connaître l'ensemble de ces variétés et les reconnaître. Hein.
On peut grignoter une châtaigne quand elle est...
Crue. Ah oui, bien sûr, c'est bon, même faut pas trop en manger parce que ça peut créer quand même des maux de ventre, mais au contraire, il faut les goûter crues, moi je trouve.
Bah oui. Il y a deux trois variétés qui sont très sucrées comme la pellegrine
et figarette.
La dauphine. Le meilleur marron dans les Cévennes, c'est la dauphine.
Moi, j'ai tendance à préférer la figarette et la pellegrine, mais
alors,
voilà.
Décrivez-nous la dauphine.
La dauphine est un fruit, bon, donc il y a trois fruits dans la bogue. En général, il y en a deux qui sont jolies et celle du milieu, bon, est finette. Et bon, c'est un fruit bombu, un peu orangé,
bombu,
strié marron et très sucré.
Et le marron glacé, on le fait avec quoi ici?
Alors là, le marron glacé.
Je pense que c'est de la M15, c'est-à-dire une variété hybridée.
Voilà, la M15 Américains.
Voilà.
Non, c'est une variété qui nous a été amenée après la guerre, de toute façon, 40. Le M15, je crois que ça s'est passé comme ça. C'est un arbre qui n'a pas forcément besoin de beaucoup d'eau, qui fait des gros marrons, mais qui sont fades. Donc le marron glacé, bon, comme il est baigné dans plusieurs sirops, etc., prend du sucre, donc... par son sillon. Voilà. Donc voilà. C'est quand même plus poétique, Figarette ou Dauphine, non?
Oui. Mais bien sûr.
Oui, c'est les grilles.
M15, on a l'impression qu'on parle d'une arme.
Voilà. C'est vrai.
Et bon, il s'est sorti une autre variété quand même que j'en ai greffé depuis 15-20 ans, c'est la bouche de Bétisiac.
Oui, la bouche de Bétisiac.
Ah, c'est joli ça, la bouche.
Voilà, c'est plus
on
joli.
Trouve beaucoup en Ardèche aussi.
C'est un fruit aussi gros que le M15, mais qui demande, qui est fragile, qui demande de l'irrigation et bon, qui est plus goûteux. Oui.
Et qu'est-ce qui le caractérise, cette bouche de Bétisiac?
Elle est plus tardive que le M15. Le M15 est tôt. Hein. C'est une variété qui, voilà, mi-septembre, ça tombe. La bouche de Bétisiac légèrement après. Et c'est un marron. Et je pense que maintenant, ils commencent certainement à s'en servir dans la confiserie de ce fruit.
Et vient d'où?
Ah, la bouche de Bétisiac, je ne peux pas vous dire.
Parce qu'on consomme de plus en plus de marron. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'importations de Grèce.
Chine.
De Chine maintenant.
Oui. Ben, on en importe beaucoup. Pourquoi? Parce que on en produit de moins en moins.
Oui. La production divisée par 10 en 30 ans.
Voilà. Parce, comme disait Lélia, le non-remembrement des parcelles, la difficulté donc aussi de ramasser ce fruit.
De travailler. Oui.
Et que c'est difficile que ça soit lucratif, cette activité. À l'époque, il fallait faire beaucoup de tonnage. Aujourd'hui, c'est presque plus possible parce qu'on n'a pas les arbres pour ça.
Oui, actuellement, il faudrait, enfin, en tout cas, sur la partie Cévennes que je connais un petit peu moins, il faudrait faire de l'élagage sévère sur énormément d'arbres avant qu'ils reproduisent de nouveau. Donc, on est sur une nouvelle. Alors, après, il y a un petit renouveau là. Il y a des gens qui essaient de s'installer en châtaigne. Mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré quelques jeunes. Voilà. Il y a une espèce de. Moi, j'en fais partie de ces gens qui arrivent là, on va dire, et qui se lancent dans cette activité.
Et Lélia, on peut vivre d'une exploitation de 3 hectares?
Oui. Il faut, comme toute activité, en le valorisant, en transformant, oui. C'est clair qu'aujourd'hui, en vendant en direct sa production de châtaigne c'est pas envisageable. Par contre, transformer tel que je le fais, oui, je pense qu'on peut en vivre.
Vous savez, on a dans nos campagnes des arbres bicentenaires. Quand à Versailles il y a du vent et qu'un arbre de 200 ans tombe et passe sur TFE, nous avons des arbres qui ont 300-400 ans. Et bon, qui des fois ne sont pas nettoyés, sont à l'abandon et c'est quand même fort dommage.
Lélia, quand vous travaillez avec vos marrons, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui fait qu'on décide à un moment donné qu'on va faire au lieu de faire des marrons sucrés, de faire des marrons salés?
Parce que je trouve que c'est un fruit qui se prête à plein de choses. Il est divin, ce fruit. Il a une très très jolie texture, une très jolie couleur marron clair. On n'aime pas beaucoup le marron en général. Enfin, le marron, cette couleur.
Le fruit destiné aux pauvres, il devient noble.
Exactement. Voilà. Moi, j'avais envie de lui donner d'autres lettres de noblesse. Quand on le réduit en purée, il est souple, il est joli, il est fin. Il a un grain très fin.
Il est agréable à toucher.
Il est agréable à toucher, à regarder. Donc voilà, moi, en tant que cuisinière, c'est cette texture-là qui m'a plu.
Et qu'est-ce que vous faites comme recette, personnellement, pour vous, Lélia?
Moi, j'ai une prédisposition au salé plutôt qu'au sucré, ce qui fait que j'ai fait des tests pour m'amuser, parce que j'adore manger, je suis une gourmande et une gourmet. Et du coup, je me suis rendu compte que la châtaigne se prêtait à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations, de par cette texture très crémeuse. Par exemple, on n'a pas une gastronomie cévenole, comme il en existe dans le Gers ou même en Provence. Donc on a un très très bon fromage qui s'appelle le Pélardon, qui est un fromage de type lactique qui s'appelle le Pélardon. Et donc j'ai associé la châtaigne avec ce fromage. Et c'est un rendu somptueux. Donc on a l'association des deux produits phares des Cévennes, châtaigne plus pélardon, ça fait une association complètement dynamique et révolutionnaire.
Et vous faites de la soupe avec la châtaigne ?
Oui, j'en fais aussi. Oui, j'en fais.
Alors là, quel genre de soupe ?
Des soupes avec du potimarron, par exemple.
Potimarron marron.
Voilà, potimarron marron.
La banjana améliorée.
Améliorée. je trouve que la châtaigne va aussi très bien avec le poireau.
Châtaigne et poireau, comment vous les préparez ?
Comme une soupe classique. Oui. Après, moi, je fais suer mes poireaux avec de l'oignon. Ensuite, je rajoute mes châtaignes, évidemment, avec un peu de gras. Hein. Parce que la châtaigne demande du gras, parce que c'est un produit sec.
Et c'est quel type de gras ? C'est plutôt du beurre, plutôt de l'huile ?
Plutôt de l'huile d'olive. Je viens d'un pays où c'est la crème et le beurre, mais j'aime beaucoup l'huile d'olive. J'avais un papa qui était kabyle, donc du coup, j'aime beaucoup aussi l'huile d'olive. Donc, je travaille beaucoup avec l'huile d'olive. Et la châtaigne va très très bien avec l'huile d'olive, plus qu'avec le beurre. Ceci dit, j'ai une crème de marron au caramel au beurre salé, que j'ai pas encore sortie, mais qui est divine.
Lélia, en termes de transformation, qu'est-ce que vous réussissez à faire comme assemblage, comme création ?
C'est vrai que je me suis amusée à faire des assemblages avec des fruits secs, par exemple. Donc j'ai une pâte à tartiner que j'ai déclinée avec plusieurs fruits secs, avec des noisettes, avec des noix, avec de la noix de coco, avec des amandes, du cacao. Donc on retrouve à la fois la châtaigne, mais d'autres saveurs.
Et on peut faire de la tapenade de
voilà,
châtaigne.
Voilà, on peut. Et puis alors du coup, voilà, je me suis aussi amusée à la développer de façon salée. Et du coup, mes assemblages, oui. Alors vous parlez de la cévenole avec du pélardon, mais elle se décline très très bien avec de la tomate. Elle se décline très très bien avec des olives. Mais voilà. Puis j'ai aussi travaillé. Je travaille le marron entier, mais au lieu de le faire au naturel, comme la plupart des gens le connaissent, je l'ai croisé avec mes origines de mon papa, avec l'huile d'olive, avec des épices, avec des herbes. Et du coup, je fais mariner des...
Vous avez kabylisé
J'ai kabylisé, si on peut dire. En tout cas, il me semble que le terme qui me conviendrait le mieux, c'est moderniser. Et ces croques marrons, voilà, ils baignent dans de l'huile d'olive que je parfume avec des herbes ou des épices. Bon, il faut même les laisser maturer un petit peu de temps, les oublier comme un bon pâté.
Hein bon, pas oui, de toute façon, la châtaigne peut être déclinée dans le sucré salé. Là, tu parles du salé. On peut le mettre certainement dans le nougat. À partir du moment où c'est un fruit qui est à base, qu'on peut en faire la farine, on peut le décliner dans un tas donc, de mets.
Et c'est voilà.
Et c'est, je pense, effectivement, grâce à cette déclinaison, de cette transformation de ce fruit, que des petites, entre guillemets, exploitations... Ouais. Castagnicole peuvent aujourd'hui en vivre et rester au pays surtout.
Voilà, oui, parce que moi c'est ce que je veux. J'ai choisi de vivre
parce
ici.
Parce que je crois qu'avant tout, que ce soit Lélia ou moi, si nous transformons ce fruit, c'est pour rester dans nos montagnes.
Exactement.
Merci beaucoup, merci Lélia, merci Eric.
Merci à vous.
Attention, hein. 3, 4.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Dominique Compétissa. La prise de son à Pont de Montvert au Festival de l'Abeille Noire et de François Rivalan et la mise en onde de Delphine Lemaire. Vous pouvez réécouter cette émission de toute éternité et la podcaster sur le site de France Culture pendant un an. Et dans quelques instants, le journal.